Alors, pour Utilsum, soit je continue à lire, soit le micro tourne et les uns après les autres, ceux qui veulent, lisent ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient à l'écran, puis je commente. C'est pas mal ça, non ? Ça permet d'être plus vivant. Alors, qui veut lire ? Voilà, alors on lit chacun un paragraphe ou une fin. Alors, d'abord quelques mots sur Eti Hilsum. Donc, Eti Hilsum, 1914-1943, hollandaise, juive. Elle collabore au Conseil juif, donc qui organise, qui est chargée des relations avec l'occupant et puis qui organise, organise ce qu'il a organisé, qui est quand même pas très reluisant. À partir de juillet 1942, elle alterne des périodes dans le camp de West, je sais pas comment on dit, Westerbork, qui est le camp de transit, qui est le Drancy hollandais, pour le compte. Donc elle fait des visites et elle travaille au service social du Conseil juif au camp de Westerbork. Et puis elle fait des allers-retours chez elle, voilà, parce que le camp est ouvert. Elle y est finalement internée en juillet 1942, je ne sais pas exactement à quelle date. Et puis elle est déportée à Auschwitz le 7 septembre 1943 et elle y meurt le 30 novembre. Voilà, donc une vie bouleversée rassemble, son livre rassemble une partie de son journal qu'elle tient à partir de 1941. Voilà, premier extrait. Ça va, c'est suffisamment grand pour lire ?
Vendredi.
Ah oui, pardon, excusez-moi, pour introduire, excusez-moi, un dernier mot. Ce qu'on va lire là, ce qu'on va lire est beaucoup extrait d'une période qui dure 18 jours, du 3 au 22 juillet, où elle écrit un nombre de pages incroyable. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Je vous laisse la parole.
Vendredi 3 juillet, 21h30. J'ai l'impression de devoir tirer un trait au bas de tout ce que j'ai écrit jusqu'ici pour continuer sur un ton nouveau. Quand on a une certitude nouvelle dans sa vie, il faut lui donner un abri, lui trouver une place. Ce qui est en jeu, c'est notre perte et notre extermination. Aucune illusion à se faire là-dessus. On veut notre extermination totale. Il faut accepter cette vérité et cela ira déjà mieux. Aujourd'hui, j'ai ressenti pour la première fois un immense découragement. Et je dois lui régler son compte. S'il nous faut crever, qu'au moins ce soit avec grâce. Bon, on veut notre extermination complète. Cette certitude nouvelle, je l'accepte. Je le sais maintenant. Je n'imposerai pas aux autres mes angoisses et je me garderai de toute rancœur s'ils ne comprennent pas ce qui nous arrive à nous les Juifs. Mais une certitude acquise ne doit pas être rongée ou affaiblie par une autre. Je travaille et je vis avec la même conviction et je trouve la vie pleine de sens. Oui, pleine de sens malgré tout. Même si j'ose à peine le dire en société. La vie et la mort, la souffrance et la joie, les ampoules des pieds meurtris, le jasmin derrière la maison, les persécutions, les atrocités sans nombre, tout est en moi et forme un ensemble puissant. Je l'accepte comme une totalité indivisible et je commence à comprendre de mieux en mieux pour mon propre usage sans pouvoir encore l'expliquer à d'autres, la logique de cette totalité.
Bon, j'arrive pas. Okay. Je retiens quelques éléments de ce dont déjà on accueille, quoi. Voilà, je note. On veut notre mort, c'est un fait, et pas seulement notre mort, mais notre extermination totale. Il faut accepter cette vérité et cela ira déjà mieux. Et juste après, elle dit. J'ai ressenti un immense découragement. Et quelques lignes plus loin, je trouve la vie pleine de sens. Euh, Alors, c'est ce que Ignace appellerait l'alternance des mouvements intérieurs. Terme technique. Mais vous voyez, elle est capable de dire à la fois je suis prise d'un mouvement de découragement total, et puis la vie est pleine de sens. Et elle est capable de nommer et de distinguer, et donc de sortir d'un magma où ça va, mais ça va pas. Non, elle est capable de nommer ça, et je crois que ça, c'est fondamental d'arriver à nommer ce qui nous habite. Et puis, l'autre chose que je note, la voie de sortie qu'elle nous propose là, c'est de voir la vie comme une totalité indivisible. Avec la vie, la mort, la souffrance, la joie, les ampoules des pieds meurtris, ben oui. Le jasmin derrière la maison, et puis juste après les persécutions. Voilà. Tout ça, ça fait une totalité indivisible qu'elle accepte. Et elle y voit une logique dans cette totalité sans pouvoir encore mettre de mots dessus. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Je propose qu'on passe.
Quelqu'un veut réagir ?
Oui.
Alors on lit la suite.
Oui. Moi, j'ai été touché par accepter cette vérité. Oui. Et cela ira déjà mieux. Je trouve que c'est. Et le reste en découle, en fait. C'est qu'elle accepte une vérité. Elle est ce qu'elle est, mais elle accepte cette vérité. Oui. Elle est dans son réel, quoi. Elle est pas...
Exactement. Exactement. Et elle fait partie de ce tout indivisible. Oui. Ah, oui. Merci. Ça va passer. Alors, attendez, on va faire autre chose. Tac. Tac.
3 juillet 1942. Il s'est passé énormément de choses en moi ces derniers jours, mais elles ont fini par se cristalliser autour d'une idée. Notre fin probablement lamentable, je l'ai regardé en face et lui ai fait une place dans mon sentiment de la vie, sans qu'il s'en trouve amoindri pour autant. Je ne suis ni amer, ni révolté, j'ai triomphé de mon abattement et j'ignore la résignation. Je continue à progresser de jour en jour, sans plus d'entraves qu'autrefois, même en envisageant la perspective de notre anéantissement. Je ne me parerai plus de belles formules qui prêtent toujours un malentendu. J'ai réglé mes comptes avec la vie, il ne peut plus rien m'arriver. D'ailleurs, il ne s'agit pas de moi personnellement, peu importe qui meure, moi ou un autre. L'important, c'est que l'on meure. Voilà ce que je dis souvent autour de moi. Mais cela n'a pas beaucoup de sens et ne rend pas clairement ce que je veux dire. En disant « j'ai réglé mes comptes avec la vie », je veux dire « l'éventualité de la mort est intégrée à ma vie ». Regarder la mort en face et l'accepter comme partie intégrante de la vie, c'est élargir cette vie. À l'inverse, sacrifier dès maintenant à la mort, un morceau de cette vie, par peur de la mort et refus de l'accepter, c'est le meilleur moyen de ne garder qu'un pauvre petit bout de vie mutilé, méritant à peine le nom de vie. Cela semble un paradoxe. En excluant la mort de sa vie, on se prive d'une vie complète et en l'y accueillant, on élargit et on enrichit sa vie. On prépare notre extermination, c'est clair, ne nous faisons pas d'illusions.
Voilà. Elle fait une place. dans son sentiment de la vie, elle fait une place à sa fin et à notre fin collective, à notre fin collective des Juifs de Hollande. La regarder en face lui permet de lui faire une place, ce qui est différent de l'évacuer, de la nier, mais ce qui est aussi différent, et la suite du texte le dit, ce qui est aussi différent de lui faire toute la place. C'est-à-dire qu'elle, lui faisant une place à la mort dans sa vie, elle trouve sa place, cette mort. Mais c'est pas, elle occupe pas tout l'écran. Elle a sa place. Et du coup, eh ben, ça donne... ça élargit sa vie. Et ça enrichit sa vie. Un autre théologien allemand qui est vivant, celui-là, Christoph Terwald, il dit, c'est parce que notre vie a un début et une fin qu'elle a du poids. Parce qu'on n'en aura qu'une. Alors, il ne parle pas dans le 4-2. Mais il y a quelque chose de ça, c'est parce que notre vie a une fin que tous les événements que nous vivons ont du poids. Sinon, ce serait reproductible, on pourrait revenir en arrière. Illusion. Voilà, et sans doute avons-nous quelque chose à réapprendre, nous. C'est un lieu commun, et de refaire une place à la mort dans notre vie, et de nous y exercer, je dirais, c'est peut-être ça aussi la réponse. Enfin, pour moi, une réponse, c'est de nous exercer à ce que la mort fasse partie de notre vie. Parce que sinon, quand on est face à elle, et qu'on ne s'y est pas préparé, et qu'on l'avait évacuée, on est pris de court, évidemment. On est sans doute aussi pris de court quand on s'y est préparé. Hein. Mais peut-être un peu, voilà, je sais pas. Ça va, d'autres réactions sur ce passage? Je trouve qu'en des mots ciselés, et on est le même jour que ce qu'on vient de lire juste avant, hein. C'est le soir. On continue? Qui veut lire?
Samedi matin, 4 juillet, 9h. Je ne suis pas seule à être fatiguée, malade, triste ou angoissée. Je le suis à l'unisson de millions d'autres à travers les siècles. Tout cela, c'est la vie. La vie est belle et pleine de sens dans son absurdité, pour peu que l'on sache y ménager une place pour tout et la porter tout entière en soi, dans son unité. Alors la vie, d'une manière ou d'une autre, forme un ensemble parfait. Dès qu'on refuse, on veut éliminer certains éléments. Dès que l'on suit son bon plaisir et son caprice pour admettre tel aspect de la vie et en rejeter tel autre, alors la vie devient en effet absurde. Dès lors que l'ensemble est perdu, tout devient arbitraire. Avant, un bon déjeuner était la chose la plus naturelle du monde. Aujourd'hui, c'est une aubaine inespérée. Et si la vie s'est faite plus rude, plus menaçante, elle est aussi plus riche dans la mesure où l'on a renoncé à ses exigences et où l'on accueille avec gratitude et comme un don du ciel tout ce qui est de bon.
On a plusieurs commentaires. Le premier, c'est « Je ne suis pas seul ». Et peut-être que là, il y a un moteur puissant. Finalement, je suis un parmi d'autres. D'autres ont traversé ce que je traverse. Ça m'enlève pas le fait que je traverse, mais, ou que je suis dedans, mais je ne suis pas seul. Et puis de nouveau, elle nous parle d'une vie absurde, mais belle. Belle si on la prend comme un tout. Ça forme même un ensemble parfait. Mais quand on... Alors j'essaie de... Voilà, dès lors que l'ensemble est perdu, c'est-à-dire dès qu'on a perdu l'impression de cet ensemble, dès qu'on a perdu le fait que c'est un ensemble, et ben ça devient arbitraire. Voilà, cette expérience que dans l'adversité, tout prend du relief, tout prend plus de relief. La condition de la manière dont elle vit, manifestement, en pouvant dire que la vie est belle, il y a quelque chose d'un renoncement à ses exigences sur la vie. Ça aussi, on peut apprendre. Mais l'accueillir comme elle vient. Et puis je relève ce mot fondamental de gratitude. La gratitude, ça part du principe que la vie, elle m'est donnée. En fait, que je ne suis pas maître de ma vie, que je ne suis pas à l'origine de ma vie, mais que la vie, elle m'est donnée et que j'accueille ce qui est bon dans ce qui m'est donné. Et que j'accueille aussi, apparemment, dans les mots d'éthique, j'accueille aussi ce qui est moins bon, mais en sachant qu'il y a du bon. Voilà, ça m'a fait entendre d'une manière nouvelle, ma vie, nul ne la prend, je la donne. Ah, je me suis dit, mais en fait, ce qu'est en train de nous dire Jésus, peut-être, c'est, bon, nul ne prend ma vie, très bien, mais moi, je continue à donner la vie. J'avais toujours entendu comme moi je donne ma vie sur la croix, mais non, en fait je continue à donner la vie. Ça m'a traversé quand j'ai préparé. Voilà, l'idée de renoncer à ses exigences, mais d'accueillir avec gratitude ce qui est bon. D'autres remarques ? On continue ? Qui veut lire ?
Dimanche, je suppose, oui. Fin juillet, 22h. Nous parlions hier soir des camps de travail. Je disais, je n'ai pas d'illusion à me faire, je sais que je mourrai au bout de 3 jours parce que mon corps ne vaut rien. Nils a dit, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que je m'en sortirai quand même. Je comprends très bien ce sentiment, je l'avais moi-même avant. Un sentiment de force, de ressort indestructible. Je ne l'ai d'ailleurs pas perdu, dans son principe il est toujours là. Mais il ne faut pas le prendre non plus en un sens trop matérialiste. Il ne s'agit pas de savoir si ce corps privé d'entraînement tiendra le choc, c'est relativement peu important. Même si l'on doit connaître une mort affreuse, la force essentielle consiste à sentir au fond de soi, jusqu'à la fin, que la vie a un sens, qu'elle est belle, que l'on a réalisé toutes ses virtualités au cours d'une existence qui était bonne.
Voilà, moi je suis toujours, je suis frappé par le réalisme et l'absence d'héroïsme de Thiel Soum. Je tiendrai en gros 3 jours. Bon, il se trouve que ça me rejoint beaucoup moins parce que je suis persuadé que s'il y a une guerre en Europe, je tiendrai 3 jours, même pas peut-être. Mais du coup, notre faiblesse, sa faiblesse, elle fait aussi partie de ce tout. Voilà. Je sais que, enfin, du coup, je ne vais pas m'attacher à essayer de faire que je vais tenir 4 jours, parce que ça n'a aucun sens. Par contre, sur quoi je peux m'appuyer ? Qu'est-ce qui peut être ressource pour moi ? La force essentielle consiste à sentir qu'au fond de soi, jusqu'à la vie, jusqu'à la fin, que la vie a un sens, qu'elle est belle, qu'on a réalisé ses virtualités. Voilà, ça elle peut s'y exercer, ça, elle peut le faire grandir, ça, elle peut le nourrir, ça, elle peut y avoir recours, y retourner, son corps. Ben. Voilà, autrement dit, comment intégrer notre faiblesse et non pas lutter contre notre faiblesse, et comment aller chercher des forces, des ressources quelque part. Qu'est-ce qui m'est possible finalement ?
Et, oui. Moi, j'ai du mal à comprendre quand que quelqu'un dise que la vie est belle.
dans ces conditions-là. J'ai vraiment du mal à comprendre.
Il y a que, je crois que c'est pas à comprendre. Enfin, je vous rejoins. C'est à accueillir, elle le dit. Et elle le dit à longueur de page.
Oui.
Parce que à ce moment-là, elle est amoureuse, elle est en relation. Elle a ce ressort de ne pas être écrasée, d'avoir fait à la place, à l'extermination qui l'attend, une place, mais qu'elle a réussi à ce que ça ne prenne. Elle a décidé et réussi, parce que ça lui est donné, je crois, d'avoir mis ça dans une place et puis de continuer à vivre. Et que du coup, la vie prend un relief incroyable. Voilà. Mais parce qu'elle n'est pas en camp de concentration, elle n'est pas à Auschwitz. Hein. Elle est entre Amsterdam, où elle vit dans un. Dans une sorte de colocation qui nous semblerait un petit peu limite sous certains aspects, qu'elle continue à... Il y a de l'argent, il y a de la vie, il y a des sorties, elle a mal aux pieds, et puis elle va à Westerbork et elle voit, puis elle voit l'horreur qui est en train d'arriver. Là encore, je rapatrie ce que je connais des soins palliatifs, où on dit l'important n'est pas de rajouter des jours à la vie, mais qu'il y ait de la vie dans les jours qui sont, voilà, qui restent.
D'accord.
Ouais, et il y a quelque chose de ça, je pense. Mm. En tout cas, moi, je le lis comme ça. Et là où je vous rejoins, c'est que ça ne peut... Personne ne peut le comprendre. C'est un témoignage.
Non, c'est difficile, oui. C'est un témoignage, mais c'est difficile à comprendre.
Oui. C'est un... Enfin, oui. C'est incompréhensible jusqu'au moment où soi-même on l'a vécu et on peut dire ah bah oui d'accord ok mais si on l'a enfin et on n'a pas on n'est pas obligé de l'avoir vécu enfin voilà c'est pas ça s'impose pas à nous en tout cas ça c'est sûr enfin quand ça nous arrive ça s'impose à nous mais on peut pas de l'extérieur je suis d'accord avec vous c'est
d'accord
ça va
merci
quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ou...
Non, pour moi, c'est le Seigneur qui lui donne tout ça. Et moi, je vois la présence du Seigneur là-dedans. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a une capacité d'écoute et que du coup, elle écoute le Seigneur, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est le Seigneur qui lui donne tout ça. Et pourquoi d'autres... Enfin, c'est une éternelle question. Pourquoi c'est pas... Pour tout le monde.
C'était peut-être aussi à un moment donné, à une journée. Est-ce que le lendemain, ça pouvait être différent. Mais n'empêche que voilà, elle pouvait s'appuyer là-dessus. C'est comme la parole de Dieu. Il y a des moments, elle nous parle. Et le lendemain, on peut pas la retenir. Le lendemain, ça peut s'effacer. Mais ça construit quand même. Enfin, je ne sais pas comment dire.
Ça se sédimente.
Oui.
On continue ? Qui veut lire ?
Mardi 7 juillet, 9h30. Je veux dire ceci. Toute la force, tout l'amour, toute la confiance en Dieu que l'on possède, et qui croient si étonnamment en moi ces derniers temps. On doit les tenir en réserve pour tous ceux que l'on croise sur son chemin et qui en ont besoin. Aujourd'hui, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou bien on en est réduit à penser uniquement à soi-même et à sa survie, en éliminant toute autre considération, ou bien l'on doit renoncer à tout désir personnel et s'abandonner. Pour moi, cet abandon n'équivaut pas à la résignation, à une mort lente. Il consiste à continuer à apporter tout le soutien que je pourrais là où il plaira à Dieu de me placer, au lieu de sombrer dans le chagrin et l'amertume. Vendredi matin, 10 juillet. Les instruments de la souffrance, Hitler, Ivan le Terrible, la famine, importe peu. Ce qui compte, c'est la façon de porter, de supporter, d'assumer une souffrance consubstantielle à la vie, et de conserver intact à travers les épreuves un petit morceau de son âme.
Voilà quelques petits commentaires. Le premier, c'est qu'elle avait quelques jours avant redit qu'elle n'était pas seule. Ben voilà, ce que je peux, c'est garder de la force pour les autres, dit-elle. Et ça, ça peut donner sens à une vie. Ça peut donner sens à de la souffrance. Le A, là où il plaira à Dieu de me placer. Là encore, il y a quelque chose d'un abandon. Les Ignatiens parleraient d'indifférence. Et que je sois, finalement, je peux faire quelque chose. Et ce qui compte, c'est la façon de vivre. Et je relève la dimension, enfin la souffrance consubstantielle à la vie. Cette reprise, cette prise de conscience, enfin cette... Depuis 70 ans, on a évacué la souffrance quand même beaucoup. On a des moyens psychologiques, enfin aussi bien pour la psychologie, que... mais il y a 70 ans, pendant la guerre, et puis même avant, elle nous tombait dessus. Voilà, la souffrance, elle fait partie de la vie, nous dit Ilsou, mais je crois que c'est aussi un grand enseignement. Elle n'est pas l'absence de vie, elle n'est pas une vie qui n'est pas bonne, elle fait partie de la vie, elle est consubstantielle à la vie. Et du coup, le 10 juillet, là, pour moi, elle arrive à... Vous voyez, il y a eu cette étape, on a décédé de notre extermination. Il y a eu le même jour ou le lendemain, et on y parviendra. Ils vont nous exterminer. Et là, il y a la seule question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va se comporter? Est-ce qu'on... Et là, ça dépend peut-être un peu de nous, pas totalement. Mais voilà, est-ce qu'on va garder un petit morceau de son âme? Est-ce qu'on va être capable de tenir de l'énergie en réserve pour tous ceux qu'on croise, qui en ont besoin? Et puis ça peut être réciproquement, hein. Il y a des jours où c'est pas de nous, c'est pas drôle pour nous, et où les autres peuvent nous aider. Voilà. Voilà, la seule question, c'est comment est-ce que on traverse ce qui nous est. Enfin, ce dans quoi on est, quoi. Ça va? Ça va. On parle de la vie et de la mort, là.
Oui, par rapport à ce qu'on disait juste avant, en fait, dans ce paragraphe-là, sur pourquoi certains ont la force et d'autres non, il me semble qu'au début, il y a un début de réponse. C'est pour les autres, ça se partage.
Oui.
Peut-être que c'est un jour l'un ou un jour l'autre, mais voilà.
Oui.
Je ne sais pas.
Oui.
Ça m'a fait tilt en entendant ce texte.
Ce que vous dites résonne avec une expérience que j'ai vécue à l'hôpital, où une famille autour du malade... disait, ben, elle nous donne de nous réunir autour d'elle, quoi. Et j'ai vécu ça, j'ai vécu les derniers moments d'un homme. Il y avait tous ses enfants étaient là. Et ben, il les a réunis autour de lui. Et il est mort. Il a attendu qu'ils soient tous là pour partir, mais il est parti. Et ben, il leur a été, voilà. Ce que vous dites. Merci. Quelqu'un d'autre?
Oui, pardon. Ce qui m'a touchée, c'est quand elle dit « conserver intact à travers les épreuves un petit morceau de son âme ». Ce petit morceau de son âme, moi, ça me touche parce que je trouve que c'est comme elle est dans le reste, il y a une grande humilité. Voilà. Elle n'est pas avec les gros bras.
Oui, c'est un tout petit morceau.
Oui, voilà.
Un tout petit morceau suffit.
Samedi 11 juillet, 11h. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur la réalité de la situation. je renonce même à prétendre aider les autres. Je prendrai pour principe d'aider Dieu autant que possible. Et si j'y réussis, eh bien je serai là pour les autres aussi. Mais n'entretenons pas d'illusions héroïques sur ce point. Beaucoup de gens me reprochent d'être indifférente et passive et prétendent que je m'abandonne sans réagir. Ils disent « Toute personne qui a une chance d'échapper à leur griffe a le devoir de la tenter. » Je dois songer à moi-même et à tenter de passer à travers les mailles du filet. Or, c'est un nombre élevé, très élevé même, qui doit partir. Et le plus bizarre, c'est que je ne me sens pas sous leur griffe, que je reste ici ou que je sois déportée. C'est une idée si conventionnelle, si primitive. Ce raisonnement ne me touche plus. Je ne me sens pas sous les griffes de personne. Je me sens seulement dans les bras de Dieu, pour le dire avec un peu d'emphase. On pourra peut-être me briser physiquement, mais c'est tout. Et je serai peut-être proie au désespoir. Je devrais peut-être endurer des privations que je n'eusse pas imaginé même dans mes rêves les plus vains. Mais tout cela est peu de choses, au prix de mon immense confiance en Dieu et de mes capacités de vie intérieure. Il se peut que je sous-estime ce qui m'attend. Mon acceptation n'est ni résignation...
On va s'arrêter là. Excusez-moi. Voilà, quelques remarques encore. Aider Dieu, on verra ce que aider Dieu veut dire un peu plus loin. Aider Dieu pour aider les autres. Je note aussi que l'absence de peur de la mort, ben justement, libère des griffes de la mort. Et il y a ce passage magnifique des griffes des personnes. Je ne suis sous les griffes de personne, je me sens seulement dans les bras de Dieu. Voilà. On peut me briser physiquement et psychologiquement. La seule chose importante, c'est mon immense confiance en Dieu et mes capacités de vie intérieure. Et ça, je crois qu'on peut s'y exercer. On peut s'y exercer. À travers les petites morts, à travers les petits renoncements, à travers voilà, cette relation à Dieu. Dieu ne prend que la place qu'on lui donne, mais quand on lui laisse la place, il la prend. Là aussi, j'en suis témoin, et puis vous sans doute aussi. Voilà. Et puis je note cet immense réalisme, elle s'enflamme un peu, on peut me briser physiquement, mais c'est tout. Bon. Et en fait, il se peut quand même que je sous-estime ce qui m'attend. On ne sait pas quoi. Et elle sait, voilà, je trouve que c'est très beau. Voilà, si vous avez des réactions. Et sinon, on continue. On continue ? Peut-être la même personne puisqu'elle avait commencé à... si vous voulez hein. La suite.
Mon acceptation n'est ni résignation ni abdication de la volonté. Il y a toujours place pour la plus élémentaire indignation morale devant un régime qui traite ainsi des êtres humains. Mais les événements ont pris à mes yeux des proportions trop énormes, trop démoniaque pour qu'on puisse y réagir par une rancune personnelle ou une hostilité exacerbée. Cette réaction me paraît puérile, totalement inadaptée au caractère total, fatal de l'événement. Il n'est pas vrai que je veuille aller au-devant de mon anéantissement, un sourire de soumission aux lèvres. Ce n'est pas cela non plus. C'est le sentiment de l'inéluctable, son acceptation et en même temps la conviction qu'en fait, rien ne peut plus nous être ravi. On me dit, quelqu'un comme toi a le devoir de se mettre en sûreté, Tu as encore tant de choses à faire dans la vie, tant à donner. Et ce que j'ai ou non à donner, ne pourrais-je pas le donner où que je sois, ici dans un petit cercle d'amis ou ailleurs, dans un camp de concentration ? Je continue.
Oui.
Si Dieu estime que j'ai encore beaucoup à faire, je le ferai après avoir traversé les mêmes épreuves que les autres. La valeur humaine, présente ou non en moi, ressortira de mon comportement dans cette situation entièrement nouvelle. Il n'est plus temps de se maintenir coûte que coûte en dehors d'une situation donnée. Il s'agit de savoir comment on réagit à toute nouvelle situation, comment on continue à vivre. Je crois qu'on doit se départir de tout espoir fondé sur le monde extérieur. Inutile de se livrer à des savants calculs de durée. Et maintenant, mettons la table.
Voilà, je simplement de ce passage, de ce, voilà, ce que j'ai à donner, je peux le donner où que je sois, en fait. Où que je sois, il y a quelque chose à donner. Ici, à Amsterdam, où la vie est un peu plus facile, ou à Westerbork, ou en camp de concentration, il y a quelque chose à donner. Pour ma part, je raisonne beaucoup à « il n'est plus temps de se maintenir coûte que coûte en dehors d'une situation donnée. Il s'agit de savoir comment on réagit à toute nouvelle situation. » C'est-à-dire, il y a quelque chose de... Et sans doute que nous, avec nos richesses, tout ça, on a pu avoir cette illusion qu'on échappait à la condition humaine, qu'on pouvait s'en sortir. Ce que nous propose Edil Soum, c'est plongeons dans l'humaine condition qu'on partage tous. Et celle-là, elle est moins drôle que ce qu'on avait imaginé, mais à cet endroit-là, il y a de quoi faire, en fait, il y a des choses à faire. De la vie. Mettons la table. D'autres réactions, sinon on continue. Qui veut lire ?
Prière du dimanche matin. Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Je vais te promettre une chose, mon Dieu, oh, une broutille. Je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, des angoisses que m'inspire l'avenir. Mais cela demande un certain entraînement. Pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. Il m'apparaît de plus en plus clairement, à chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous.
Un passage très connu de Tietzou. Voilà ce que c'est aider Dieu, c'est l'aider à ne pas s'éteindre en nous, mais je ne puis rien garantir d'avance. Voilà, défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Et ça demande un certain entraînement. Mais si on s'entraîne encore une fois, ça passe. Il passe, il est là. On continue.
Je suis surtout reconnaissante de n'éprouver ni rancœur, ni haine, mais de sentir en moi un grand acquiescement qui est bien autre chose que de la résignation et une forme de compréhension de notre époque. Je suis un cheminement intérieur propre, de plus en plus simple, de plus en plus dépouillé, mais néanmoins pavé de bienveillance et de confiance. S'aguerrir et s'endurcir sont deux choses différentes. On confond beaucoup de choses par les temps qui courent. Je crois que je m'aguerris chaque jour, si j'accepte une vessie décidément indisciplinée, mais je ne m'endurcirai probablement jamais. Je suis sûr d'établir une continuité entre ma vie passée et celle qui m'attend maintenant. Parce que cette vie s'accomplit sur un théâtre intérieur. Le décor a de moins en moins d'importance. Aguerri doit être soigneusement distingué de endurci.
Je note le mot acquiescement qui me semble beaucoup plus fort que le mot consentement, en tout cas pour moi. L'acquiescement, c'est le oui de Marie qui épouse de l'intérieur le projet, enfin la proposition de Dieu pour elle. Elle l'a fait sienne, quoi. Là où peut-être le consentement nous tient peut-être parfois un peu à distance, nous tient encore à distance. Oui, je consens à ce que tu viennes. L'acquiescement, ça me devient intérieur, quoi. Et du coup, petit à petit, en m'exerçant, en m'aguerrissant, eh bien, tout mon être participe de cet acquiescement et se laisse habiter par ce à quoi j'ai acquiescé. Et c'est différent de s'endurcir, où s'endurcir, on met des couches de protection. Là, au contraire, dans l'aguerrir, on joue avec, ça devient autre, ça nous renforce, mais de l'intérieur. Voilà, on a fini ce que je voulais vous partager de l'itinéraire intérieur du mois. L'autre chose, c'est cette vie s'accomplit sur un théâtre intérieur. Et du coup, le décor a de moins en moins d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui se vit à l'intérieur, en résonance à ce qu'elle vit à l'extérieur, évidemment. Mais cette écoute intérieure. Où elle entend la vie, quoi. Où elle entend la vie et la mort. On a fini avec l'itinéraire de juillet. Par ailleurs, il est 22h02. Donc, s'il y en a qui veulent, ce qui est possible ou souhaitable, soit on arrête, soit on dit c'est terminé, soit on dit on laisse 5 minutes pour que ceux qui s'en aillent s'en vont, et puis on finit, il reste 4 diapositives. Voilà. Enfin, comme vous voulez, je ne sais pas ce que vous voulez.
On peut laisser la liberté à ceux qui souhaitent se retirer, parce qu'il est 22h, c'était l'horaire promis de se retirer, et puis ceux qui ont le désir de poursuivre un petit peu, de rester
un petit peu avec lui. Il reste un quart d'heure, un temps d'échange. Bonne soirée, merci de pas être allé jusqu'au bout. Peut-être en arrivant chez vous, pouvez-vous vous demander qu'est-ce que je garde de cette soirée? Y a-t-il une chose que je garde? Merci.
Puis vous voyez quelque chose d'une simplicité, les choses deviennent, se simplifient, se dépouillent pour arriver sans doute à l'essentiel. Voilà, je crois qu'il y a, quelque chose, une des raisons pour lesquelles je suis rentré dans la vie religieuse, c'est parce que je me suis dit, puisque de toute façon, on n'emporte rien, je vais commencer à m'exercer tout de suite. J'arrive pas très bien. On continue ? Qui veut lire ?
Le sentiment de la vie est si fort en moi, si grand, si serein, si plein de gratitude, que je ne chercherai pas un instant à l'exprimer d'un seul mot. J'ai en moi un bonheur si complet et si parfait, mon Dieu. Ce qu'il exprime encore le mieux, ce sont ses mots à lui, se recueillir en soi-même. C'est peut-être l'expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie. Je me recueille en moi-même. Et ce moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche en moi, où je me recueille, je l'appelle Dieu.
Oui.
Écoutez au-dedans, je voudrais disposer d'un verbe bien hollandais pour dire la même chose. De fait, ma vie n'est qu'une perpétuelle écoute au-dedans de moi-même, des autres, de Dieu. Et quand je dis que j'écoute au-dedans, en réalité, c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi, écoute l'essence et la profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu. Il ne suffit pas de te prêcher, mon Dieu, pour te mettre au jour dans le cœur des autres. Il faut dégager chez l'autre la voie qui mène à toi, mon Dieu. Rester fidèle à tout ce que l'on a entrepris dans un moment d'enthousiasme spontané, trop spontané peut-être. Rester fidèle à toute pensée, à tout sentiment qui a commencé à germer. Rester fidèle au sens le plus universel du mot. Fidèle à soi-même, fidèle à Dieu, fidèle à ce que l'on considère comme ses meilleurs moments. Et là où l'on est, être présent à 100%. Mon faire consistera à être.
Voilà, le sentiment de vie qui passe par se recueillir en soi-même. C'est une vie relue, une vie... Chez les Ignatiens, on baigne là, enfin, on se sent bien avec ça, quoi. Et elle va loin, parce qu'elle dit ce moi-même le plus profond, c'est Dieu. Différentes saint Augustin, enfin, vous voyez, c'est même plus c'est même plus Dieu qui est plus présent à moi-même ou plus intime à moi-même que moi-même, c'est au plus profond de moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà, en relisant ça tout à l'heure, je me disais dégager chez l'autre la voix. Pardon ?
C'est très.
Ça vous rappelle Spinoza.
Peut-être. Vous avez des ressources que je n'ai pas.
Non, c'est parce que je lui ai dit qu'on peut aller au-dedans de soi-même sans forcément aller jusqu'à Dieu.
Oui.
Ça peut être la vie, ça peut être autre chose. C'est,
tout à fait.
C'est tant mieux si on peut aller jusque-là.
Oui.
Mais on peut aussi ne pas aller jusque-là.
Ah, oh, ben tout à fait. Ou ne pas nommer ce jusque-là comme ça.
Ne pas le nommer.
Oui, tout à fait. Là, c'est une croyante qui parle.
Tout à fait, voilà.
Et on ne sait pas très bien, enfin, elle n'a pas signé quelque part qu'elle était chrétienne. Hein, elle est,
oui.
On pense qu'elle, je crois qu'on pense qu'elle était devenue chrétienne, en tout cas dans son cœur. Mais oui, je suis croyant tout à fait.
Voilà, Dieu avec un grand D.
Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Oui, je me disais, dégager chez l'autre la voie qui mène à toi. Je me disais, c'est une belle définition de la mission de l'accompagnateur spirituel ignatien. Dégager chez l'autre la voie qui mène à toi. Voilà, et je crois une conclusion qui, moi, me rejoint beaucoup. Mon faire consistera à être. Et il peut y avoir des situations où je ne peux plus rien faire. Et à commencer par quelque chose qui est bien connu de gens qui sont jeunes, un burn-out, on ne peut plus rien faire. Ah ben oui, on peut être. On peut être à cet endroit-là. On peut être... mon faire consistera à être. Et à être contre le non-être, peut-être. C'est-à-dire à être comme résistance à la destruction. Me vient juste maintenant à l'esprit ce livre d'un type qui souffrait du syndrome du lockdown.
Ah oui.
Je ne sais plus comment ça s'appelait.
Le papillon, non ?
Oui, c'est oui, ça. Le syndrome du papillon. Et le gars, il à l'intérieur, il est, quoi. Hein. D'autres remarques ou ça va ? On continue ?
Beaucoup de handicap, c'est aussi la même chose.
Ouais.
Ne plus faire, mais être.
Ouais.
Ne plus pouvoir faire, mais être.
Et à ce moment-là, découvrir une autre, enfin, découvrir des potentialités en soi ou des. Et qui nous déploie complètement, en fait. Et qui nous déploie, et pour revenir sur votre remarque, qui déploie les autres, qui autorise les autres à être là, à aider, à être présent d'une autre manière, ou pas,
oui.
Ou pas,
oui,
ou pas.
Vendredi matin, dans mon lit. Je vais assumer les risques. En ce moment, je ne suis pas tout à fait honnête avec moi-même. Il me reste une leçon à apprendre, la plus dure, mon Dieu. Assumer les souffrances que tu m'envoies, et non celle que je me suis choisie. Je te promets de vivre en accord avec le meilleur de mes forces créatrices. Partout où il te plaira de me placer et de me maintenir. Mais j'aimerais tant retourner au camp dès mercredi, fût-ce pour 2 semaines seulement. Oui, je le sais, il y a des risques. Le camp s'emplit de SS et se couvre de barbelés. La surveillance se renforce de jour en jour. Peut-être ne nous laissera-t-on même pas ressortir dans 2 semaines. Es-tu prête à prendre ce risque? Parfois, je prends feu et flamme de toutes parts. Lorsque je sens, comme en ce moment, se lever en moi une vraie grandeur et me submerger de reconnaissance, cette amitié. Me voici malade, anémique, plus ou moins grabataire, et pourtant chaque minute est si féconde, si pleine. Que sera-ce lorsque je serai guérie? Je ne cesse de faire monter vers toi le même Alléluia, mon Dieu. Tant je t'ai de gratitude d'avoir bien voulu me donner une telle vie.
C'est du lourd. Assumer les souffrances que tu m'envoies et non celles que je me suis choisie. Ça, c'est encore un parcours. Voilà, toute cette gratitude. Et puis, je ne l'avais pas noté, mais je vous le partage. C'est le deuxième passage dans lequel elle parle à Dieu. Et Je crois que là, il y a quelque chose de fondamental. En tout cas, je suis de plus en plus persuadé, il faudrait que je le vérifie auprès d'anciens, de grands maîtres de la spiritualité ignatienne, mais je crois que le grand apport d'Ignace, c'est de nous apprendre à parler à Dieu. Et non pas lui parler seulement pour lui dire merci, pardon, s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire, mais lui dire, voilà, Seigneur, j'ai un problème, il y a ça qui m'anime, il y a ça. Et alors, voyez, rentrer dans une conversation avec Dieu, ce qu'elle fait là, ben, je crois que c'est le moyen, je dis souvent aux gens que j'accompagne dans les retraites au début, et quand on a une question à poser à un ami, quand on voudrait avoir un conseil d'un ami, on ne lui dit pas qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que l'ami il est là, qu'est-ce que tu dois faire. Si tu ne m'en dis pas plus, je ne peux pas t'aider. Ben, je crois que c'est pareil avec Dieu. Je crois que Dieu, il a besoin qu'on lui expose nos affaires. Et c'est ce que Ignace dit dans le numéro sur le colloque. Tantôt faisant part de ses affaires et demandant conseil à leur sujet. Mais il faut lui exposer nos affaires. Voilà, c'est bien. Je vais assumer les risques. Et du coup, en le lisant là, enfin en l'écoutant lire, es-tu prête à prendre ce risque? Et si ce n'était pas Dieu en elle qui parlait et qui disait, qui était la réponse de Dieu, es-tu prête à prendre ce risque? Bon, je pense. C'est pas. Je vous le livre.
S'il vous plaît.
Oui.
Mais est-ce Dieu tu envoies les souffrances?
Non. Enfin, ça, je crois. Enfin, en tout cas, moi, je ne crois pas.
C'est ce que j'ai écrit.
Oui. Pardon. Je vois que vous disiez. On va parler de la vie, hein? je crois pas. En tout cas, il lui en parle de ses souffrances. Et il n'y a même pas de colère. La dernière, c'est pour vous donner les dernières. Donc ça, c'est des lettres qui sont parties de Westerbork au moment où elle est internée définitivement. Et puis, voilà. On va la laisser. Qui veut lire?
Il y a une limite à toute souffrance. Un être humain ne reçoit peut-être pas plus de souffrance à endurer qu'il ne le peut. Et si la limite est atteinte, il meurt de lui-même. Il y a ici parfois des gens qui meurent d'avoir l'esprit brisé, parce qu'ils ne saisissent plus le sens de leurs épreuves. Des gens jeunes. Pour nous, il ne s'agit déjà plus de vivre, mais plutôt de l'attitude à adopter face à notre anéantissement. On ne se rend pas soi-même encore très bien compte. On est devenu un être marqué par la souffrance pour la vie. Et pourtant, cette vie, dans sa profondeur insaisissable, est étonnamment bonne. Maria, j'y reviens toujours. Pour peu que nous fassions en sorte, malgré tout, que Dieu soit chez nous, en de bonnes mains, Maria.
Voilà, la dernière lettre est donc jetée du train qui l'emmène à Auschwitz.
Christine, j'ouvre la Bible au hasard et trouve ceci. Le Seigneur est ma chambre haute. Je suis assise sur mon sac à dos au milieu d'un wagon de marchandises bondé.
Voilà, pourrait-il. Pour ma part, je raisonne beaucoup à cette. Enfin, je trouve un des grands enseignements d'Ilsoum, c'est il ne s'agit déjà plus de vivre, mais de l'attitude à adopter. Enfin, c'est notre terme. Voilà, je crois que c'est à ça. Enfin, pour ma part, je suis. Voilà, je crois qu'on va vers des choses difficiles, vraiment difficiles, qui va nous rapprocher de beaucoup de gens dans l'humanité, alors qu'on croyait en être libérés, et que du coup la question, elle est celle de l'attitude à adopter, peut-être pas face à notre anéantissement, mais face à des choses difficiles. Et que là, il y a le grand principe de la vie, on fait ce qu'on peut, mais on peut faire tout ce qu'on peut, quoi. Mais on ne fait que ce qu'on peut. Et en tout cas, on peut s'habituer à cette... Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de m'habituer à cette question. Voilà. Quelle attitude adopter face à des choses difficiles? Et peut-être que ce qu'on peut faire, c'est que Dieu soit chez nous en de bonnes mains. Voilà. J'avais encore tout un truc sur la contemplation Ad Amorem, mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Je voulais conclure avec, ça nous est donné, c'est la liturgie d'aujourd'hui, la première lecture. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude. Ça commence par ce genre d'assemblée, hein. C'est pas tout de suite dimanche à l'église. Voilà, si vous le souhaitez, on peut finir par un autre Père. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Je vous invite, avant de partir ou en rentrant chez vous, voilà, une ligne, deux lignes. Est-ce que quelque chose m'a frappé ce soir? Est-ce que je veux garder quelque chose de ce soir? Et ensuite, vous voulez le papier, évidemment, comme tous vos papiers. Non, mais voilà, écrivez quelques lignes sur le
cas. Merci.
Merci à vous. Merci.
Est-ce que je peux poser une dernière question?
Oui.
Je voulais savoir où est ton espérance sur toutes ces personnes âgées que j'ai beaucoup entendues, qui perdent la tête et qui n'ont aucune réflexion à penser pendant des fois plusieurs années, quelques jours.
Et est-ce que finalement, c'est pas transféré à la famille très proche cette espérance et cette. Mais que. C'est dur à vivre. Les gens vont finir par mourir, évidemment. Mais les amis, ils sont dans des situations. Mais on est loin de tout ça.
Oui, on est là de tout ça. Et encore une fois, me revient, ils sont l'occasion pour des gens de s'occuper d'eux. Et que. Il y a deux manières de s'occuper d'eux. Il y a une manière de s'occuper d'eux mécanique et automatique, et AT2A, donc ta tarification aux actes, voilà. Et puis, de temps en temps peut-être, il y a quelque chose qui se crée. Il y a des gens qui n'avaient pas d'emploi, qui ont un emploi grâce à ces personnes. Peut-être, hein, peut-être que c'est ça. Et du coup, ils sont l'occasion pour notre société de prendre soin d'eux. Peut-être.
C'est sûr.
Ça peut aller. Enfin, vous voyez, l'anéantissement qu'ils vivent peut aller jusque-là, mais du coup, c'est formidable parce que c'est ce que. Enfin, il me semble que c'est ce qu'un certain nombre de personnes disent. C'est le jour où notre société leur fera la piqûre, et ben on aura changé de monde. Parce que là, notre société a décidé d'en prendre soin. Enfin, d'en prendre soin plus ou moins bien, plus ou moins mal. Parfois très très mal, mais voilà, et rien que ça, c'est un signe, c'est l'humanité qui se joue, quoi, en fait, peut-être. Hein. Et puis alors, moi, il y a un vieux jésuite qui est dans cet état-là, qui est ailleurs, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient le visiter, il dit « Je ne sais pas du tout qui vous êtes, mais si vous venez me voir, c'est que nous avons dû vivre de belles choses ensemble.
Ça magnifique. Bon, mais ça lui est donné. Ça lui est donné.
Pas possible, pas possible. C'est bien exercé.
Je crois qu'il s'est bien exercé. Puis il avait une bonne nature.
Merci beaucoup.